Il n'y a pas de son dans l'espace, comme le film Alien l'a décrit, hein, avec « Dans l'espace, on ne vous entend pas crier », parce que le son est une onde, une vibration, mais une vibration mécanique portée par la matière. Un son, ce sont des molécules qui vont bouger, par exemple des molécules d'air. Il faut donc de l'air entre l'émission et la réception pour être capable de transporter le son. Or, dans l'espace, il y a essentiellement du vide. Il y a un petit peu de matière, neutre et ionisée, chargée électriquement, mais tellement peu que les collisions sont quasiment inexistantes entre les particules. Et il faut que cette matière soit suffisamment dense pour qu'il y ait des collisions. Et donc, pas de collision, pas de son. L'émergence de la vie intelligente est une manière pour l'univers de prendre conscience de lui-même. Si finalement, par la pensée, l'observation, les mathématiques, l'univers peut prendre conscience de lui-même, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire chanter finalement, lui qui est désespérément silencieux parce que vide de matière? Je m'appelle Philippe Zarka, je suis chercheur en astrophysique, employé par le CNRS, et je travaille à l'Observatoire de Paris sur le site de Meudon. J'étudie le cosmos non pas en lumière visible, mais en lumière radio, qui est une lumière invisible pour nos yeux. Et avec cette lumière radio, qui est captée soit par des radiotélescopes au sol, soit par des sondes spatiales dans l'espace, j'étudie les planètes et les exoplanètes essentiellement. Je m'intéresse un petit peu aussi à d'autres astres, les pulsars, le Soleil, les sursauts radio rapides, mais avant tout les planètes et les exoplanètes. Ça, c'est un son de Jupiter. Ce sont les électrons libres qui se déplacent dans le champ magnétique de Jupiter, dont le mouvement va générer des ondes radio. Il y a ça aussi autour de Saturne, de toutes les planètes magnétisées. Jupiter est un très intense émetteur d'ondes radio naturelles. Sonifier, finalement, c'est traduire un signal en son. La toute première transposition, toute première sonification que j'ai faite, c'était en 1992, lors de la visite de Jupiter par la sonde spatiale Ulysse, qui ensuite s'en est allée voir le Soleil à très haute latitude, vers les pôles du Soleil. Et donc, Ulysse était passé proche de Jupiter. Et donc, voilà 10 heures de rotation de Jupiter, donc une rotation de Jupiter, compressée à l'époque en 10 secondes. Quand on voit l'image, quand on entend le son, on a plusieurs phares radio, en fait, donc sources d'émissions radio dans la magnétosphère de Jupiter, qui, avec la rotation de la planète, vont successivement illuminer l'observateur. Alors tous ces phénomènes nous permettent d'étudier la magnétosphère de Jupiter, la bulle magnétique créée par le champ magnétique de Jupiter dans le vent solaire, comme accélérateur d'électrons. C'est un accélérateur de particules naturelles. Et ces électrons produisent des émissions radio. Ils produisent aussi des aurores, par exemple, en visible et en ultraviolet. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de vouloir expliquer c'était quoi ces ondes radio qu'on recevait de Jupiter. Donc, je les représentais sous forme de graphique, le temps sur un axe, la fréquence sur d'autres. Et je me suis rapidement aperçu que, pour un membre du public, quelqu'un qui n'est pas scientifique, c'est très difficile de se faire une image de temps et de fréquence de manière graphique, on n'en a pas l'habitude. Donc en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, cette décomposition en temps et en fréquence est tout à fait analogue à un sonogramme, la manière dont on représente un son décomposé. Donc, si j'en faisais une transposition sonore, fidèle, objective, qui soit une illustration sonore des données que je reçois. J'ai essayé, et il s'est trouvé que l'impact auprès du public était beaucoup plus fort, parce que d'une part, la nature du signal en temps et en fréquence est immédiatement perceptible et compréhensible au moins en surface, et puis d'autre part, ces sons sont étranges, et donc ils excitent la curiosité, et on veut en savoir plus. Ça, c'est très bien quand on veut expliquer de la science. Et là, donc, je me suis aperçu, en essayant, que quand on traduit ces images en son, d'abord, elles deviennent intelligibles, puisqu'on restaure la dimension du temps et des fréquences, et d'autre part, elles deviennent poétiques et belles et intrigantes. Et donc ça, ça excite la curiosité, et là, on peut expliquer les choses. Quand on nous fait entendre des sons qui sont censés provenir de l'espace, ils peuvent venir en fait de deux sources. Soit il s'agit de sons qui ont été enregistrés in situ par des sondes spatiales, et ça veut dire dans notre banlieue très proche, le système solaire. Donc de vrais sons. Un exemple, les sondes spatiales qui se sont posées sur Mars ont pu enregistrer des sons parce que Mars possède une atmosphère certes très mince, 10 000 fois plus mince que la Terre, mais suffisante pour qu'il y ait des collisions et pour transporter des sons. On peut aussi traduire des signaux d'une autre nature, des signaux sismiques, des signaux radio justement, en son. Mais dans ce cas-là, c'est un son image en quelque sorte. Je prends une analogie. Quand on vous montre une image du Soleil en ondes ultraviolettes, en réalité, on vous montre une traduction des ultraviolets ou des rayons X qui sont invisibles pour nos yeux, en couleurs visibles. Et bien de la même manière qu'on peut traduire des couleurs invisibles en couleurs visibles, on peut traduire des couleurs invisibles en son. Pour le son, la couleur en fait équivaut à la hauteur du son. Les couleurs, on va dire, de plus haute fréquence comme le bleu vont correspondre au son aigu, les couleurs de plus basse fréquence comme le rouge vont correspondre au son grave.
Minus 28 seconds. 25.
Go status check.
Go Atlas.
Go center.
Go insight.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. The liftoff of the Atlas V. Launching the first interplanetary mission from the West Coast. And NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars.
RD 180 continues to look good at this point in the mission. Checking pressures, pump speeds, expected regions, pressure ratio, controlling within expected parameters.
Beaucoup de missions martiennes, spatiales, qui marchent beaucoup avec la NASA évidemment, ont tendance à envoyer sur Mars des rovers pour essayer d'explorer le sol martien, faire quelques trous, des analyses, des photos. Les satellites autour de Mars sont envoyés déjà depuis très longtemps. Finalement, on a une très bonne connaissance de la surface de Mars, peut-être même mieux que la Terre, puisque sur la Terre, il y a de la végétation, il y a les fonds des océans, donc on connaît peut-être moins bien la surface de la Terre que la surface martienne, puisqu'il n'y a rien pour la cacher. Et bizarrement, on ne connaît vraiment pas l'intérieur de Mars. Donc la mission InSight, c'est principalement connaître l'intérieur de Mars, et pour le faire, bah, il n'y a principalement que les sismomètres qui peuvent le faire.
Je suis Éric Beuclerc, enseignant-chercheur, professeur des universités à Nantes Université et sismologue.
20 meters.
17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
On a attendu longtemps, on a attendu quasiment 128 jours pour commencer à avoir la première trace d'un séisme martien. Ce qui n'est pas évident parce qu'il fallait quand même s'habituer à retrouver le signal d'un séisme martien qui n'a rien à voir avec un séisme terrestre. Donc après, on s'est habitué au séisme martien jusqu'à un jour où là, on a aussi enregistré des signaux qui étaient un peu particuliers, qui à la fois étaient sismiques, c'est sûr, mais qui avaient une composante bizarre acoustique en fait. C'est-à-dire que ce sont des ondes acoustiques qui sont venues taper le sismomètre, puisque le sismomètre était sur le sol, il vibre pour toutes les raisons possibles, et donc il vibre aussi quand c'est une onde acoustique dans l'atmosphère qui se propage. Donc là, je vous donne tout de suite la solution de l'histoire, c'est qu'en réalité, ce qu'on avait enregistré, c'était un impact de météorite. Alors, si on refait, on entend un pfiou, plouf, plouf, plouf. Ça fait ça. Je force un peu pour voir. Et alors ça, en fait, on a eu mal à comprendre au départ ce que c'était. On a commencé à réfléchir en disant, ben non, ça se trouve, en fait, c'est une météorite qui serait passée au-dessus du sismomètre. Au moment où elle passe, elle générait ce qu'on appelle une onde de choc, un peu comme on a un avion qui passe Mach 1. Alors ça génère une onde très particulière qu'on enregistre sur les sismos, qui est assez classique, une onde, une N-wave en fait, on l'a déjà enregistrée sur Terre aussi cette onde-là. La même météorite pourrait continuer sa course très rapidement puis se fragmenter quand elle exploserait pendant son vol, où ça nous donnerait cette deuxième explosion toujours dans l'atmosphère. Ensuite elle viendrait percuter le sol, cette troisième signal serait le son du boom sur le sol quand elle arrive et qu'elle percute le sol, mais en même temps en percutant le sol elle va forcément générer des ondes sismiques. Parce que c'est comme si c'était un coup de marteau. Et ici, on a les trois ondes acoustiques dans l'atmosphère martienne du signal de la météorite, mais il n'y avait pas de microphone, c'est juste le sismomètre qui les a enregistrées, parce que ça a fait vibrer quand même le sol, mais un petit peu. Et donc ce qu'on a entendu là, cette sonification du son d'un quake martien, c'était un vrai quake, parce qu'il y a eu un impact, mais il y a eu aussi un mélange d'ondes, un peu comme sur Terre, quand il y a une météorite qui passe sur Terre aussi, on a ces sons-là. Donc on a du son acoustique, qui peut être vraiment de l'acoustique, mais qu'on n'entend pas, qui se transforme en onde sismique pour venir faire chahuter le sismomètre, qui l'enregistre quand même, mais il y a aussi de l'onde sismique qu'on convertit en son. Un séisme peut générer du son, mais une fois qu'il est passé dans l'atmosphère. Et encore, c'est rare, c'est pour ça qu'il faut être très proche de la source, sinon on ne l'entend plus du tout. Sonifier un sismogramme, c'est faire des choix. C'est-à-dire que le sol, à l'intérieur des objets, donc planète, mais même n'importe quel objet, un solide, vibre sous ce qu'on appelle trois formes possibles. C'est-à-dire qu'il vibre soit comme vous imaginez un accordéon, il se comprime et il se dilate. Et ça, c'est la même chose qu'une onde acoustique. Et puis dans la planète solide, si on peut parler de Mars, alors il y a aussi une autre capacité qui n'existe pas dans les ondes acoustiques, qui est ce qu'on appelle le cisaillement. C'est-à-dire la capacité à essayer de déchirer les roches. Ou la matière, en l'occurrence. Et pour les enregistrer, ben, il faut en fin de compte trois composantes sur un sismomètre. Donc en fait, on a toujours une composante verticale, et puis deux autres composantes qui sont les composantes horizontales. Donc, par rapport à juste un micro qui enregistre que dans ce qu'on appelle un champ scalaire, c'est-à-dire qu'il y a juste une valeur, la membrane vibre fortement ou pas, ben là, il faut savoir dans quelle direction elle vibre la membrane. C'est comme si vous aviez une membrane de micro qui est capable de vibrer ben, comme d'habitude, mais aussi de faire au bas ou juste gauche-droite. Il faudrait aussi même qu'on ait six composantes pour avoir les rotations, parce qu'il y a aussi des rotations possibles de la matière. Et donc, passer ça dans le domaine sonore, nos oreilles et puis toute la technologie de l'acoustique ne travaillent que sur ce qu'on appelle un champ scalaire, en fait. C'est juste une valeur. Si vous regardez l'émission Apollo, donc là, un impact de météorite sur le sol lunaire, ça fait un signal qui dure 50 minutes et qui tout doucement s'atténue parce qu'il n'y a plus d'ondes, ce qu'on appellerait balistique, où il y aura un chemin préférentiel pour une onde hyper rapide qui arrive. En fait, elle n'arrêterait pas de se taper dans tous les sens de sa propagation, donc en fait, il n'y a plus vraiment d'énergie coordonnée dans un milieu qui est complètement chahuté et diffusif. Et sur Mars, on a des fréquences qui sont un peu différentes que sur Terre. Le bruit sur Terre, c'est-à-dire l'énergie océanique de la houle qui vient entacher finalement le signal sismique un peu partout sur le globe, hein, qu'on soit au milieu de l'Afrique, au milieu de l'Asie, à 2 km sous terre, on pose un sismomètre et on enregistrera toujours les petites vibrations, les acouphènes incessantes liées à tous les océans du monde, en fait, qui perturbent en permanence le signal des séismes. Bah, celui-là, il n'existe évidemment pas sur Mars. Donc en fait, on n'a jamais connu cette gamme de fréquences non plus. Puisque sur Terre, c'est comme si on avait des acouphènes en permanence dans cette gamme de fréquences. Donc sur Mars, on a découvert des signaux dans des gammes de fréquences dont on n'avait pas l'habitude.
C'était Le Son des Planètes, premier épisode, la sonification. Avec l'astrophysicien Philippe Zarka et le sismologue Eric Böckler. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast avec le soutien du ministère de la Culture français.